écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Vous ou un proche vivez avec une perte de vision? Peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi. Nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez inca.ca ou appelez-nous au 1-800-465-4622.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est la main! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.
Vendredi 14 janvier 2022, ici Alex Bergeron et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Sur les ondes de Chiz 94.3 à Québec et de CFAQ 88.3 à Sherbrooke, vos radios universitaires préférées. Content de vous retrouver à nouveau cette semaine avec des suivis de dossiers. Parce que qui dit nouvelle année dit. Finalisation de certaines choses. Donc, notamment, pendant le temps des fêtes, on en avait parlé un petit peu, le bébé de l'album Nevermind de l'album du groupe Nirvana à Los Angeles, donc le bébé qui est nu sur la photo, a déposé une nouvelle plainte pour pédopornographie à Los Angeles. Fin août 2021, Spencer Elden, aujourd'hui âgé de 30 ans, il a mon âge, avait déposé plainte au motif que ni lui, ni ses parents n'auraient donné la moindre autorisation pour utiliser son image et certainement pas pour l'exploitation commerciale d'images à caractère pédopornographique de sa personne. Une disposition fédérale autorise les victimes de pédopornographie à demander des dommages et intérêts à quiconque produit, distribue ou possède des images où ils peuvent figurer. Le juge de Los Angeles avait classé le dossier le 3 janvier dernier parce que le plaignant n'avait pas répondu en temps voulu aux arguments qui lui opposaient les avocats de Nirvana. Le juge avait toutefois autorisé Spencer Elden à déposer une nouvelle plainte dans un délai de 10 jours, chose qu'il a fait ce mercredi, donc le 11, pas tout à fait 10 jours après le 3. Sur la pochette de Nevermind, datant de 91, on peut voir à l'âge de 4 mois. Comment il s'appelle déjà? Spencer Elden? Nageant nu dans une piscine et semblant vouloir attraper un dollar accroché à un hameçon. L'album en question contient notamment des titres comme Smell Like Teen Spirit. L'album s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires, devenant une référence musicale. Le plaignant qui dit n'avoir jamais reçu de compensation financière pour la photo réclame aujourd'hui 150 000 $ de dommages et intérêts aux 17 personnes qu'il poursuit, notamment les anciens membres de Nirvana, et l'exécutrice testamentaire de Kurt Cobain, Courtney Love. Pour la réponse à la plainte initiale, les avocats de la défense avaient notamment soutenu que Elden a passé 3 décennies à profiter de sa célébrité en tant que bébé de Nirvana. Et il a refait la photo en échange de nombreuses rémunérations à de nombreuses reprises et il s'est fait tatouer le titre de l'album Nevermind sur la poitrine. Il a dédicacé des copies de couverture de l'album pour les vendre sur eBay, et il a utilisé son lien, ce lien, pour essayer de draguer des femmes, énumère-t-il. Donc, quand il dit que sa vie a été gâchée, rendue à 31 ans cette année, c'est peut-être pas tout à fait vrai. Parce qu'effectivement, s'il avait été aussi traumatisé qu'il le dit, s'il avait été aussi choqué de la situation, on l'aurait pas vu aux éditions anniversaire, lorsque lui-même avait 18 ans, lorsque lui-même a eu 20, tu sais, de refaire cette photo-là, habillé peut-être les secondes fois, mais tu sais, et d'avoir probablement comme biographie sur les sites de rencontres, je suis le bébé de Nirvana. Fait que tu sais, il y a un gros flou, si c'est pas une grosse passe de cash qui essaie d'être faite, mais comme ça n'a pas marché la première fois, la deuxième risque de pas être la bonne non plus. En espérant que cette fois-ci, le juge ne donne pas la permission d'en faire une troisième. Mais comme les avocats de Nirvana sont déjà quand même assez prêts, ça devrait bien aller. Donc, bébé de Nirvana qui veut essayer une nouvelle fois de ramasser de l'argent auprès de Nirvana, mais que ça ne semble pas être bien parti. Autre dossier qui m'amuse beaucoup dans tout ce qui s'est passé avec les... Es-tu complotiste? C'est difficile à dire. Pascale Ferrier a fait parler d'elle encore une fois cette semaine, en début de semaine, puisque la Québécoise, qui est accusée d'avoir envoyé par la poste du poison à Donald Trump, ne pourra pas récupérer les 2000$ cash qu'elle avait lors de son arrestation. La juge Dabney L. Friedrich de la Cour fédérale à Washington a rejeté vendredi une requête de Ferrier pour la récupération de cette somme saisie lors de son arrestation à la frontière américaine en septembre 2020. Ça fait déjà 2020 déjà, mon Dieu. Nous sommes vraiment là pour donner à Mme Ferrier la possibilité d'obtenir tout le shampoing qu'elle veut, d'obtenir tous les articles qu'elle veut, et d'obtenir les sous-vêtements qu'elle demande, de communiquer avec les membres de sa famille ce qui est plus cher, évidemment parce qu'ils sont au Canada, donc faisant état des frais d'interurbains. C'est ce qu'a défendu Eugene Homme, avocat commis d'office lors d'une comparution virtuelle devant le tribunal de Washington. Il a souligné que la plupart des prisonniers ont accès à de l'argent de leur propre compte bancaire ou de la famille proche. Le problème, la poursuite a fait valoir que l'argent en question, donc le 2000$ cash qu'elle trimbalait avec elle, ben c'est pas juste de l'argent, c'est quand même une preuve dans l'enquête. C'est une preuve puissante de pouvoir montrer au jury durant le procès ce que l'accusé avait en sa possession lorsqu'elle est venue aux États-Unis. Donc, que c'était pas par hasard qu'elle allait faire ça. Tu sais, elle avait prévu son coup de ne pas se faire retracer d'un coup que, dans un monde parallèle, elle réussissait à empoisonner Donald Trump. Ben, qu'elle puisse payer cash le gaz lorsqu'elle va revenir au Canada, qu'elle puisse payer comptant ses repas, donc qu'elle ne soit pas traçable à cause de ses cartes de crédit, par exemple. Là, c'est une supposition. Mais d'avoir de l'argent comptant quand on ne veut pas se faire retracer, même si on est pourri en passant les douanes, première étape, ben, c'est sûr que ça peut très facilement être amené comme preuve. Il a également été déclaré qu'un dossier scellé contenant les gestes que Mme Ferrier aurait posé après... OK, je reprends. Il a également... La Cour a également déclaré qu'un dossier scellé concernant les gestes que Mme Ferrier aurait posé après son arrestation font toujours l'objet d'une enquête. On suggère donc que la remise de l'argent pourrait constituer un danger pour la communauté. Les actions présumées dont il est question dans le dossier scellé, ainsi que les rapports disciplinaires des deux centres de détention où Ferrier a été détenu, laissent entendre que l'accusé devrait subir une audience pour voir s'il est apte à subir son procès. Rien de surprenant jusqu'ici. Si nous faisons si nous finissons par avoir un procès dans cette affaire d'ici là à Washington, il viendra un moment où nous devrons déterminer si cette affaire peut être jugée ou non. Madame Friedman a d'ailleurs demandé au tribunal d'ordonner à Ferrier de subir une évaluation psychiatrique de 30 jours, une requête à laquelle la défense s'est opposée. Le juge Frédéric n'a pas statué sur cette requête vendredi dernier, demandant au procureur de fournir plus d'informations sur la durée de l'évaluation. Elle a déclaré qu'une personne accusée dans une autre affaire attendait depuis septembre une évaluation supplémentaire. Donc, elle n'est pas prioritaire. Il y a d'autres gens dans la file d'attente, j'imagine. La défense avait valoir que Ferrier est apte à subir son procès parce qu'elle comprend la nature et les conséquences possibles de la procédure. Le gouvernement n'a présenté aucune preuve qu'elle ne comprend pas la nature de ces procédures. Donc là, on s'obstine sur est-elle bonne ou non pour son procès. Ça reste à suivre quand même. Et finalement, le gros dossier de la semaine, s'il y en a un certainement, c'est la fin de District 31. On vient du côté québécois. Donc après le judiciaire, ben ça reste un petit peu judiciaire quand même. Judiciaire fictif, mais tout de même. Donc officiellement, Luc Dionne a publié une vidéo, l'auteur, sur ses réseaux sociaux. Je pense que c'est sur la page de District 31 même, pour annoncer que au terme de la saison, donc à la fin de la présente saison, en 2022, donc qui va se terminer au mois d'avril, il n'y aura pas de suite. Et ce pas de suite a été appris quasiment par le fait même par les acteurs qui sont en train de tourner actuellement la saison qui va se terminer en avril. Donc ça a été le choc au sein de l'équipe parce que comme District 31, c'est très demandant. Au terme de la saison, donc à la fin, au mois d'avril, il y aura eu 720 émissions de District 31, donc 720 demi-heures télé, 21 minutes à peu près, ce qui est quand même un nombre assez important de télévision, moins la minute de générique. Fait que 720, 20 minutes, c'est quand même assez important. Multiplions-le pour le fun. On parlerait d'un 240 heures de télé. Ce qui est quand même assez immense. Ça fait en sorte qu'au terme du 720e épisode prévu le 21 avril sur ICI Radio-Canada Télé, il n'y en aurait plus par la suite. Comme je le disais, vu que c'est une série qui s'écrit sur le long terme, il arrive parfois que les textes ne sont pas tout à fait terminés. On a de l'avance, mais pas tant que ça dans le cas District 31. À preuve, lorsque la COVID est arrivée, la saison s'est terminée très, très rapidement en mars, avec une semaine en moins parce que les tournages allaient se faire pour la conclusion. Il aura fallu attendre l'automne pour écouter les 8 derniers épisodes de la précédente saison, entre guillemets. Ça fait également en sorte que les acteurs n'étaient pas au courant que la saison se terminerait sans que nécessairement il y aurait une suite. Ce qui veut dire que peut-être est-ce que le personnage d'Hugo Dubé va réussir à démanteler le District 31 comme il le veut depuis quelques semaines. Sait-on jamais? Comment est-ce qu'on va être capable de fermer l'aventure de District 31? Ça va être assez particulier. Évidemment, un phénomène télé avec une moyenne d'1,5 million de téléspectateurs à tous les soirs du lundi au jeudi à la télé ordinaire, ce qui est assez rare niveau télé, bien que TVA va essayer de faire la même chose. Dans le cas de District 31, c'est un phénomène télé quand même. C'est 5 ans, 6 ans de télévision. C'est quand même une longue run. On va dire ça comme ça, avec un rythme assez particulier. 1,5 million, c'est une soirée correcte. 1,8 million, c'est à peu près dans les records qu'on a. Même dans les bonnes années, tout le monde en parle. 1,5 million, je pense qu'on on le frôlait, mais on ne l'avait pas exactement. Donc, ça sera... La porte sera ouverte pour mettre une nouvelle émission dans cette case horaire-là le lundi soir 19h. C'est pas gagné d'avance ce qui va s'en aller là. Après Virginie, après 30 vies, maintenant District 31. Pour être concept, faudrait que ça soit quelque chose 32. Ça pourrait être très drôle. Mais bonne chance à l'auteur qui va essayer de se placer dans cette case horaire-là. Si c'est une série qu'on va insérer dans cette case-là, normalement, oui, mais c'est un extrêmement gros défi pour le prochain auteur qui devra réaliser la quotidienne télé de Radio-Canada. On s'arrête quelques instants. Au retour, la suite de ce dossier télé, puisque justement, TVA a annoncé une émission à mettre entre guillemets, en compétition contre District 31, mais que maintenant, District 31, tu sais, sa révérence, donc sera en compétition avec quelque chose d'autre. Et une autre suite de dossiers, puisque la Tulipe à Montréal, il y a du développement, il y a des poursuites qui vont être engagées contre le voisin cabochon de la Tulipe qui s'est construit un studio, condo, logement, d'arrête le mur à côté du théâtre et qui essaye de faire fermer le théâtre. On avait parlé avant les fêtes. Il y a eu un petit peu de développement cette semaine. On s'en va tout de suite entendre Bitsexu avec Plumage. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de chez ZSFAC.
Thank you.
deuxième service sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAQ 88.3. Télévision maintenant, où on poursuit télévision, je devrais dire. District 31, ça c'est révérence ici, Radio-Canada Télé. Par contre, TVA annonce lui aussi sa série policière quotidienne sur les coups de 19h. Indéfendable sera à l'affiche de TVA. On dit cet automne, je crois, pour la diffusion de cette série-là. Dans le cas de Indéfendable, on mettra en vedette Stéphane Pouliot, Poupou. On mettra Sébastien Delorme dans le rôle principal de cette série. Donc maintenant qu'il est mort dans District 31, il peut retourner à TVA. Comble de l'ironie, il s'en va dans une quotidienne à 19h qui traite de phénomènes de judiciaires et de policiers. Mais dans ce cas-ci, plutôt que d'être un enquêteur du service de police de la ville de Montréal, non, du Grand Montréal dans District 31, il sera un avocat de la défense criminelle. Ça déroulera au sein du cabinet de défense La Pointe McDonald, dans lequel le personnage interprété par Sébastien Delorme est un avocat. Diffusé sur TVA et TVA+, les épisodes d'une demi-heure présenteront la scène de crime du point de vue de la personne présumée coupable et de la victime. Le public pourra jouer le rôle de jury en se basant sur les éléments présentés par la défense et la couronne. Là, j'espère que c'est pas interactif, parce que sinon ça pourrait virer bizarre. C'est l'avocat criminaliste maître Richard Dubé qui a eu l'idée de cette création originale, qui sera réalisée par Stéphane Simard, connu pour avoir tourné plusieurs séries de la saison de jeunesse, Une grenade avec ça. Je comprends pas le mix, mais en tout cas, il faut bien faire d'autres choses après. Avec ses intrigues fortes, son réalisme et la richesse de ses personnages, cette série se démarquera à coup sûr. A-t-on pu lire dans le communiqué de Denis Dubois, vice-président de contenus originaux de Québécois Contenu. Indéfendable est une série judiciaire qui tiendra en haleine à coup sûr l'auditoire, a promis Nathalie Fabian, directrice de la programmation au sein de Groupe TVA. Donc, une autre série policière à la télévision québécoise, et ce sera avec Sébastien Delorme. Wow! Quelle invention incroyable! Donc, du côté de TVA, probablement cet automne. Et sinon, comme je le disais avant la pause musicale, le conseil d'arrondissement du plateau Mont-Royal à Montréal a formellement mandaté jeudi le service des affaires juridiques de la ville pour lancer un recours collectif, un recours judiciaire, c'est-à-dire à l'égard du voisin du La Tulipe qui a envoyé une demande d'injonction à la salle de spectacle de l'avenue Papineau. La Tulipe est une institution culturelle mythique pour Montréal, a déclaré le maire d'arrondissement Luc Rabouin en entrevue à Radio-Canada. On démontre aujourd'hui qu'on est très sérieux et ferme dans notre résolution de préserver le La Tulipe. Théâtre des variétés, ancien nom. L'arrondissement du plateau Montréal a pris cette décision afin de faire cesser l'occupation illégale du bâtiment jouxtant La Tulipe. En décembre dernier, la tribu, propriétaire de la salle de spectacle, a lancé un appel à l'aide sur les réseaux sociaux en expliquant avoir reçu une demande d'injonction d'un voisin qui exige que cesse tout bruit venant du théâtre où il a un mur mitoyen. Pierre-Yves Beaudoin, le voisin en question, a racheté l'immeuble juste à côté du La Tulipe, a transformé l'espace commercial en résidence, et depuis, il se plaint du bruit et a lancé des démarches judiciaires à l'encontre de la tribu. L'audience qui devait avoir lieu le 21 décembre dernier, à laquelle le conseil d'arrondissement devait participer en tant que témoin, a été reportée afin que les parties impliquées tentent de trouver une solution. La solution en question, c'est de corriger une erreur. Ce pourquoi Pierre-Yves Beaudoin fait aussi l'objet d'une action judiciaire en parallèle. Si la ville de Montréal lui a bien accordé un permis pour transformer son immeuble d'un espace commercial à une résidence, elle n'aurait pas dû. Voici où la correction d'erreur commence. la réglementation du plateau Mont-Royal interdit le changement d'usage commercial à un espace résidentiel. C'est dans les règlements de l'arrondissement. Ce n'est pas possible de changer un espace commercial en résidentiel. Surtout pour les espaces jouxtant une salle de spectacle ou un bar. Donc, tu ne peux pas acheter un espace qui était un magasin de cellulaire, le convertir en logement si tu es à côté d'un bar ou d'un restaurant ou d'une salle de spectacle, pour qu'après ça, tu vives là-dedans et tu dises « Ah, oh, mais là, le bruit autour est gossant. » C'est supposé être un magasin. C'est normal qu'il y ait du bruit dans un magasin ou autour du magasin. Donc, c'est normal que de te construire résidentiellement parlant à côté d'une place qui a du bruit, ça n'a pas de sens. Faire un parallèle, ça serait d'acheter la boutique en face du Champlain ou du Granada à Sherbrooke et de se plaindre du bruit d'en face. Tu sais ce que tu fais quand t'es à côté, en face, autour d'une salle de spectacle, logiquement. Ça a l'air que Pierre-Yves Beaudoin, lui, comprend pas ça. Le Crabouin du plateau Montréal reconnaît que la ville a commis une erreur. Dans toutes les organisations, il y en a parfois. Notre travail est d'essayer de limiter le plus possible et de les corriger quand il y en a. L'arrondissement du plateau a envoyé à Pierre-Yves Beaudoin un avis pour lui demander de cesser l'usage illégal de son édifice. Le 9 décembre, il a répondu qu'il n'était pas question qu'il quitte le local et qu'il réfutait l'analyse de l'arrondissement selon laquelle il n'avait pas le droit d'utiliser l'ancien costumier du La Tulipe comme étant son lieu de résidence principale. Ou en tout cas, un lieu de résidence. Le 15 décembre, l'arrondissement lui a envoyé une mise en demeure l'avisant qu'ils allaient entreprendre des démarches judiciaires si l'usage illégal du local ne cessait pas. Ce sont donc ces démarches qui ont été entreprises hier jeudi. C'est bien hier jeudi. Pour éviter des problèmes similaires Pour éviter des problèmes similaires ailleurs sur le plateau Mont-Royal, le Crabouin rencontra le 4 février les salles de spectacle indépendantes installées dans le quartier en question. Il pourrait y avoir d'autres situations où des voisins se plaignent du bruit, donc on voudrait prévenir les prochaines tensions, a-t-il précisé au sujet de cette réunion organisée en collaboration avec le réseau des scènes musicales alternatives du Québec, les SMAC. On va discuter de comment on peut s'assurer que le plateau demeure un territoire dynamique pour la culture émergente et mettre en place des mécanismes plus solides pour s'assurer la pérennité des salles tout en préservant des milieux de vie et de qualité pour les citoyens et citoyennes. Fait qu'en gros, c'est ça. Ça serait de rester dans le Petit Champlain, rester sur la Wellington Nord à Sherbrooke et de se plaindre du bruit des commerces, des restaurants et tout ça, parce que il y a un employé de la ville un matin qui a signé un papier qu'il n'aurait pas dû. Et dans le cas de Pierre-Yves Beaudoin, de s'entêter à vouloir rester là et à se plaindre du bruit à côté de chez eux parce que il veut juste écœurer le monde. C'est littéralement ça. Comme je le disais, il a acheté le mur à côté de la salle de spectacle et après ça, il se plaint que dans une salle de spectacle, il y ait des spectacles. Aucun mot de sens. Fait que Pierre-Yves Beaudoin continue à être la personne la plus désagréable qu'il n'y a pas, en tout cas récemment, en s'entêtant à vouloir rester le mur à côté d'une salle de spectacle quand il veut que ce soit silencieux à côté de chez eux. On s'arrête quelques instants. Au retour, on parle de l'actualité de la semaine, comme à l'habitude, ici même, au deuxième service, sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAC 88.3.
Parfois, l'actualité peut sembler nébuleuse, confuse, opaque et peut mener à des questions du genre « C'est qui ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en parle? » Chiz 94.3 a la solution miracle pour toi. Écoute Un Fort dans le Midi tous les jours en semaine dès midi. Avec Guillaume Bédard et son équipe, on est là pour t'éclairer sur les enjeux d'actualité. Avec des chroniques, des analyses, des entrevues, du contenu pertinent et recherché. Un Fort dans le Midi, c'est ta quotidienne d'actualité pour tout savoir et tout comprendre sur les ondes de Chiz 94.3.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Thank you.
De retour au deuxième service, vendredi 14 janvier. Encore une fois, Sherbrooke, qu'est-ce qui se passe? Manifestation, 22h, couvre-feu dépassé du côté de Sherbrooke, place Belvédère, comme par hasard, 22 personnes ont reçu constat d'infraction pour non-respect du couvre-feu hier soir. Les policiers ont invité à deux reprises les participants à regagner leur domicile avant 22h, mais ceux-ci ont refusé. OK, ils ont fait quand même un long trajet. Ah non, c'est une autre place. Je me corrige. La manifestation s'est amorcée au cégep de Sherbrooke et s'est conclue au palais des sports Léopold Drolet peu avant minuit. Mais voyons. Pourquoi les images qu'on a vues, ils passaient à côté du Stratos Pizzeria? Ils ont-tu fait tout le circuit de même? Cégep, jusqu'au Times, jusqu'à la place Belvédère, puis revenu à Léopold. Mon Dieu, ils t'ont fait un trajet. Mais si, on t'a fait ça jusqu'à minuit en plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Québec, ils ont essayé d'en faire une, c'est-tu lundi ou mardi? Sont partis du Parlement, se sont rendus à peu près jusqu'à l'avenue Cartier, puis ont arrêté tout le monde. Genre une demi-heure, puis c'était fini. Là, ils ont fait ça jusqu'à minuit, service de police de Sherbrooke. Mais voyons donc. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est ça? Ça me fait rire. Ceci dit, le couvre-feu sera tout de même levé, donc ils se sont tous ramassés avec des tickets de 1600$ pour à peu près rien, puisque, à partir de lundi prochain, le couvre-feu sera de nouveau retiré entre 22h et 5h le matin. Donc après avoir servi à rien du 31 décembre dernier, à lundi prochain, François Legault a officiellement annoncé que ce couvre-feu-là était de nouveau retiré. Est-ce qu'on a des preuves que ça a marché? Pas nécessairement. Est-ce qu'on a des preuves que ça valait la peine? Pas nécessairement non plus. Sans donner de date, le premier ministre a également dit espérer la réouverture dans les prochaines semaines des salles à manger, des restaurants, des bars, des salles de spectacle, des cinémas, entre autres lieux. Parce qu'évidemment, on retire le couvre-feu entre 22h et 5h, mais on ne réouvre pas le reste. Donc, on a maintenant le droit de sortir de chez soi après 22 heures pour aller au dépanneur. Et encore là, s'il y a des employés qui travaillent de nuit parce qu'il y a des ruptures, pas des ruptures, mais il y a des pénuries d'emplois un peu partout et les gens travaillent de moins en moins la nuit ou ne veulent pas travailler la nuit parce que c'est des chiffres pas particulièrement intéressant et c'est comprenable, quoique ça n'en prendrait, mais en même temps, on ne peut pas forcer le monde non plus. Donc, on enlève le couvre-feu pour ne pas réouvrir le reste, mais le seul truc qui est positif jusqu'à maintenant, c'est que Omicron est en perte de vitesse tranquillement, pas vite, au Québec aussi. Au sens où en Afrique du Sud, on a trouvé les premiers cas, c'était en novembre-décembre dernier, mais début janvier, on annonçait déjà que le pic avait été atteint et que la chute était drastique. Donc quand on regardait le graphique, on voyait que ça montait soudainement une flèche incroyable, mais qu'une semaine et demie, deux semaines, trois semaines passent et whoop, ça redescend comme si c'était revenu à la normale, entre guillemets. Donc, les chances que à peu près tout le monde vont attraper Omicron à plus ou moins de détails, à plus ou moins de complications graves ou non, c'est en ce moment la nouvelle théorie élaborée. Pas par François Legault, mais le reste du monde en général constate que, oui, il est plus contagieux, oui, il y a des conséquences beaucoup moins graves, surtout lorsqu'on est vacciné, parce que ça protège d'une certaine manière, la troisième dose est maintenant accessible à tout le monde 18 ans et plus. Pour se protéger pour ceux qui ne l'auraient pas encore eu. Là, encore une fois, ça dépend de certaines informations. Ceux qui auraient eu Omicron n'auraient pas besoin d'avoir de troisième dose. Ceux qui auraient eu, en fait, la COVID en général ont une certaine immunité. n'aurait pas besoin de la troisième dose, mais comme la troisième dose va être demandée pour le passeport vaccinal, et que si on n'a pas de preuve, entre guillemets, d'un test PCR qu'on a eu la COVID, techniquement, vu que c'est pas enregistré nulle part, on l'aurait pas. Fait qu'il y a tout ce flou-là en ce moment qui, malheureusement, laisse beaucoup de gens en questionnement. Bien que beaucoup s'entendent pour dire aussi que si on a eu la COVID, la troisième dose n'est pas vraiment... Je viens de le dire, mais en tout cas, il y a certains spécialistes qui disent que l'un n'oblige pas l'autre. Fait que comment on se démêle là-dedans, c'est un petit peu difficile. C'est sûr que dans le cas de... en ce moment, on voit que le pic a été atteint et qu'on est en train de redescendre, ce qui est une bonne chose. On a plus des 15 000 cas par jour, ce qui est une bonne chose, mais c'est qu'en ce moment, on ne fait des tests qu'avec certaines personnes de la population et non pas la population au complet. Fait que oui, les chiffres sont en diminution, mais ils sont en diminution parce qu'il y a moins de gens testés. Fait que ça donne pas vraiment non plus un vrai état des lieux. Oui, on a remis des tests maison sur les tablettes en début de semaine. Ça a pris un peu de temps aussi. Il y a certaines pharmacies qui les ont pas eu avant la fin de la journée. Mais il faut faire attention. Oui, les chiffres sont un peu moins élevés, mais est-ce que proportionnellement, si tout le monde était testé, les chiffres seraient aussi peu élevés? La question se pose. Donc, pour l'instant, ça va bien. Ça va un peu mieux. Le couvre-feu, on s'entend tout le monde que ça, c'est pas ça qui va faire la différence. Les écoles, il y a beaucoup de monde qui sont encore très craintifs, avec raison. C'est l'état des lieux pour l'instant. Et sinon, article très intéressant d'Émilie Dubreuil qui s'est rendu dans les Laurentides cette semaine pour essayer de comprendre le phénomène de ceux qui s'opposent drastiquement à la vaccination. Pas parce que c'est des raisons médicales, mais juste parce qu'ils veulent rien savoir de la médication, de la vaccination. Et c'est important de faire la part des choses. Parce que oui, il y a des anti-vaccins qui croient que le vaccin va enlever leur âme de leur corps, mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas prendre le vaccin parce que c'est contre-indiqué médicalement. Donc, je ne classe pas les gens qui ne peuvent pas recevoir le vaccin comme des anti-vaccins. Parce que probablement que s'ils le pouvaient, si elle et elle le pouvaient, ils n'hésiteraient pas à prendre la vaccination également. Mais peut-être parce que justement, ils ont certaines maladies, certaines contre-indications, des allergies peut-être. Ça fait en sorte qu'ils ne peuvent pas prendre le vaccin pour l'instant. À moins qu'on développe une nouvelle version, notamment Guillaume le Métivierge, qui en serait heureux. C'est pas vrai. Il aurait techniquement été vacciné depuis. Émilie Dubreuil qui titre sur le site de Radio-Canada « Vax et anti-vax, les moins belles histoires des pays d'en haut ». Elle s'est rendue dans les Laurentides, dans la Naudière, cette semaine pour Sainte-Adèle, pour Val-David également, pour rencontrer ces gens-là. Il y a des gens qui étaient beaucoup plus parlables que d'autres. Elle a rencontré notamment un homme et sa mère qui ont eu la COVID, qui se sont rendus à l'hôpital et que malgré cela, ils ne veulent pas de dose de rappel de la COVID, même s'ils ont fait de la COVID longue à l'hôpital. C'est quand même assez particulier. Il y a un café à Sainte-Agathe qui s'affichait ouvertement comme étant le respect d'abord et qu'il ne faisait pas de discrimination selon la religion, la couleur de peau ou d'être vacciné ou non. C'est un peu lourd et ça mélange plein d'affaires et c'est dans ce café-là que devient le truc quand même assez particulier puisque en début de semaine, il y a une vidéo sur les réseaux sociaux d'un monsieur dans une certaine détresse, ou en tout cas qui allait vraiment pas bien. Ça, c'est clair. Comment Émilie Dubreuil le disait déjà, elle a dit... l'homme était verbomoteur, nerveux, intimidant et en même temps chargé d'un désarroi et j'oserais dire d'une détresse perceptible. J'aurais voulu discuter avec lui, impossible. La vidéo commence avec Michel Gagnon, membre du groupe des Farfadets. Il se présente de même à Émilie Dubreuil, d'Émilie Dubreuil dans un café. On est toujours dans l'anneau d'hier. Elle, la journaliste, veut seulement poser des questions à la propriétaire du café qui a une salle à manger ouverte, que les gens dans le café n'ont pas de masque et qu'elle les sert pas de masque non plus. Parce que comme elle le dit, ici on est pro-choix. On a récupéré la phrase pour l'avortement pour l'adapter au mouvement anti-masque. Parce qu'ici, on vous sert avec le sourire. Et ce genre de phrase de boîte-là. Pour on sait pas trop quelle raison, Michel Gagnon, membre du groupe des Farfadets, est en place et essaye d'empêcher Émilie Dubreuil de faire sa job, de poser des questions à la journaliste. Il a son cellulaire dans sa face, il filme la journaliste, et il crie des insultes, il dit que c'est une conne, et quand elle essaye de juste détourner le regard et de puis parler, « Ah, on sait bien, quand on vous met ça dans la face, vous voulez rien savoir, nanana. » Il ne fait que crier après la journaliste, qui, elle, essaye seulement de discuter avec la propriétaire du café. On veut pas de vous, les merdias. Vous, les merdias, vous dites toutes sortes de cochonneries sur nous autres. Il arrête pas de répéter ça. Moi, j'étais intelligent, pas vous. Non. Désagréable au plus haut point. Et il ne se mêle de rien. Plus tard, dans la même journée, il y a une policière de la Sûreté du Québec qui est dans le café à remettre des constats d'infraction pour justement avoir laissé les gens... ne pas avoir respecté les règles. Et lui rentre comme si de rien n'était pour essayer de... On sait pas trop quoi, mais en tout cas, il essaye de s'en prendre à l'agente en disant « Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi dedans? » Et techniquement, il a pas rapport. Il est même pas de ce village-là. Il est de l'extérieur. Fait que... En plus de pas se mêler de ses affaires... Il fait du trouble sur la voie publique, mais comme il n'était pas si dangereux que ça, il a techniquement pas eu de ticket, ou en tout cas sur les vidéos qu'on a vues, il avait pas l'air d'avoir eu de ticket. Et c'est ce que. Et réellement, c'est probablement le meilleur résumé que Émilie Dubreuil peut faire de tout ce mouvement-là, le mouvement anti-tout, c'est de dire. C'est-à-dire que cela était verbomoteur, nerveux, intimidant, chargé d'un désarroi et d'une détresse perceptible. Parce que ces gens-là ont la chienne de ce qui se passe en ce moment, ont peur de ce qui se passe en ce moment, et le seul réconfort, entre guillemets, qui se sont donnés, qui se sont trouvés, c'est de faire confiance à du monde qui leur ressemble, comme Steve Charland de Grenville, de Grenville sur le Rouge, ça. Un gars de Gatineau qui a l'air d'un biker, qui a une grosse barbe, des vestes en cuir, un chapeau de cowboy, qui parle comme le monde ordinaire, qui envoie chier le gouvernement. Et qui dit « Nous autres, on fait ce qu'on veut. » Et parce que ce monde-là, et qui ont déjà demandé de l'argent aussi à un certain moment, avec lequel ils ont réussi à se payer une roulotte, un Winnebago, mais évidemment, ils ne diront jamais que c'est à ça qu'a servi l'argent, qu'on soupçonne fortement, mais qu'on n'a pas la preuve que c'est comme ça qu'ils l'ont acheté, mais qu'on soupçonne fortement que c'est grâce à ça. Ben, ça fait en sorte qu'après ça, eux se rattachent à ce monde-là, parce que il est comme moi, il haït le gouvernement, puis il haït ça quand telle affaire, puis dans, tu sais, fait qu'ils se regroupent tous ensemble pour faire des rassemblements en Beauce pendant l'été. Faire comme, oh oui, nous, on vit comme les autres, et nanana, nanana. Ou entre nous autres, c'est le cas de le dire. Parce que ils ont peur de ce qui se passe et c'est la seule réponse qu'ils ont trouvée. Ça vaut la peine d'aller lire l'article au complet qui, justement, fait en sorte qu'Émilie est allée rencontrer du monde qu'on n'entend pas normalement, entre guillemets, qui arrête pas de dire oh, on veut entendre notre monde dans les médias. Elle le fait dans cet article-là. Ça vaut la peine d'aller lire l'entièreté dans Vax et Antivax, la moins belle histoire des pays d'en haut, comme elle l'a. Les moins belles histoires des pays d'en haut, comme elle l'a signé. Ça se lit bien. Petit article court, évidemment. Bon, il n'y a pas de lien pour les vidéos, mais ça se trouve relativement facilement sur les réseaux, ce genre de vidéos-là. Puis vraiment intimidant, le monsieur, là. Il crie après la journaliste, quasiment. De là, tu t'en vas, on veut pas de toi, maudit journaliste. Non, non, non. Désagréable, le monsieur. Puis à la limite, la propriétaire aurait pu dire là, tatoué Michel, mal fait pas plus. Fait que, tu sais, en tout cas. Les vidéos sont gosses. La vidéo est particulière, mais le récit qu'elle en fait, de rencontrer ces gens-là, est quand même assez intéressant. Donc, Vax Antivax, les moins belles histoires des pays d'en haut. Courte pause, Valence en musique, au retour à la conclusion de l'émission de cette semaine. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de chez la CFAQ. Pour la conclusion de l'émission de cette semaine, America de Valence, mais on s'en va plutôt du côté international cette fois-ci, puisque du côté du Congo, Paul Mukendi, qui a fait énormément jaser dans la capitale, la vieille capitale, 5 mois après avoir réussi à fuir le Canada, le pasteur Paul Mukendi, qui devrait être en prison au Canada, pardon, est toujours en liberté du côté du Congo, même si on annule ces événements dernièrement. Il est toujours libre comme l'air. Le ministre fédéral de la Justice refuse encore de commenter le sujet. Une attitude inacceptable selon les partis d'opposition à Ottawa qui demandent à David Lametti de prendre ses responsabilités afin de rapatrier le criminel de 44 ans. Pour la petite histoire, il a été reconnu coupable d'agression sexuelle du côté canadien. Il devait obtenir sa condamnation avant qu'il quitte le Congo par Toronto. Comment a-t-il réussi à se faufiler hors du Canada? La question se pose toujours. Et justement, cette question-là, qui est posée par les gens de l'opposition, fait en sorte que, il y a quelque chose qui n'a pas marché à quelque part. C'est pas normal que quelqu'un qui était en attente de recevoir sa sentence ait réussi à s'enfuir du pays dans lequel il est condamné. Voilà où le problème commence. Pourquoi le ministre Lametti refuse-t-il d'accorder une entrevue à Radio-Canada à ce sujet? L'attaché de presse Chantal Oberton, lundi matin, dans un message-tête, dit que sa cellule est complètement pleine. Donc, en plus de l'avoir mal traduit, son horaire est plein. Nous avons offert de réaliser cette entrevue à n'importe quel moment d'ici la fin du mois de janvier. Une proposition qui est demeurée sans réponse. Le pasteur évangélique Paul McKenzie est libre comme l'air en République démocratique du Congo, pays d'origine. Pourtant, il a été condamné au Canada à 10 ans de prison pour 2 agressions sexuelles commises au Canada. Puisqu'entre-temps, il attendait la condamnation pour un procès. Il y en a eu un deuxième qui s'est déroulé en décembre. Comme il a refusé de se présenter, on a procédé avec la procédure s'est poursuivie et il a été reconnu coupable d'une deuxième agression sexuelle commise au Canada. L'homme qui se décrit comme l'apôtre du Québec a fui le 18 août dernier, 2 jours avant le début de sa peine de prison, à bord d'un avion en partance de Toronto. C'est une claque dans la face pour la justice canadienne, avait commenté à ce moment-là Pierre Paulus, député conservateur de Charlebourg, Haute-Saint-Charles, qui juge inacceptable le silence du ministre Lametti. Le ministre de la Justice devrait être insulté de ce qui est arrivé là, devrait prendre toutes les procédures possibles pour ramener Paul McKenzie au Canada, au Québec, pour qu'il soit incarcéré et qu'il fasse son temps, comme on dit. Faut pas oublier, M. Paulus, qu'il n'y a pas de traité d'extradition entre le Canada et le Congo, donc on ne peut pas simplement appeler le Congo et dire « redonnez-nous-le ». Mais en même temps, il y a sûrement des procédures qui peuvent être faites pour tenter de l'arrêter. Mais pour l'instant, il est toujours techniquement libre comme l'air au Congo, si on se fie à ce qu'il fait. Évidemment, les vidéos, quand il les fait, c'est assez dur de savoir où ce qui est, mais pour l'instant, il serait au Congo, libre comme l'air, parce qu'il ne croit pas au système judiciaire canadien. C'est la raison qu'il a donnée pourquoi qu'il avait fui. Nice! Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du Deuxième Service. C'est là-dessus que ça se termine. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition. Salut!
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.